Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous reverrez la face de la terre. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous continuons dans ce traité important de saint Thomas d'Aquin, qui va de la question 71 à la question 89 dans la prima secondée, la première partie, la deuxième partie, sur les péchés et les vices. Et nous en sommes arrivés à la page 63 du polycopié, à la question 87 de la peine du péché, et nous allons toucher aujourd'hui en bas de la page 63, donc page 63 dans le polycopié, nous allons toucher l'article 6 de cette question 87. La dette de peine peut-elle demeurer après le péché? Nous allons peut-être terminer aujourd'hui, on va voir ce traité. Il nous restera après deux traités pour terminer la deuxième partie de la somme théologique, traité sur les lois et traité sur la grâce qui est extrêmement important. Donc, saint Thomas va étudier maintenant dans l'esprit de l'Église, les conséquences du péché. Qu'est-ce qui se passe après le péché? Il a déjà expliqué, j'ai expliqué moi-même en suivant saint Thomas d'Aquin, les conséquences du péché. Pour cela, il faut se rappeler la définition que saint Thomas d'Aquin donne du péché, aversio ad Deo, conversio ad creaturas. Aversio ad Deo, se détourner de Dieu, conversio ad creaturas, pour se tourner vers la créature. Donc il y a deux actes dans le péché. Premier acte, le plus grave, je mets le bon Dieu dehors, j'ouvre la porte de ma maison et je fais sortir le bon Dieu de la maison. Deuxième acte, à la place du bon Dieu, je mets une créature. Je remplace Dieu par une créature. Par la même porte que Dieu vient d'utiliser pour quitter ma maison, je fais rentrer une créature. Donc il y a deux choses, une chose infinie, je mets Dieu dehors, Dieu est un être infini. Deuxième chose, une chose finie, à savoir le remplacement d'un être infini par une créature finie. Donc les conséquences, évidemment, sont là et seront différentes. À cause du fait que nous mettons Dieu dehors, il y a donc une gravité infinie dans le péché provoquée par la mise à la porte du bon Dieu. Par le fait que je remplace Dieu par une créature, là je fais un malheur qui est provoque un malheur dans mon âme qui est fini. Alors, saint Thomas donc se demande dans cette question 87, article 6 de la prima secundae, si la peine demeure après le péché. C'est-à-dire, est-ce que après le péché, Dieu pardonne, Dieu qui a pardonné le péché, est-ce que tout est remis à. Est-ce que les pendules sont remises à l'heure complètement? Est-ce qu'on retrouve totalement la gloire de l'âme qui existait dans cette âme avant le péché? Pour répondre, saint Thomas va utiliser une partie du livre de Samuel, deuxième livre de Samuel, « J'ai péché devant le Seigneur ». Samuel vient de parler avec Nathan, le prophète, qui lui reproche vertement, de la part du bon Dieu, son crime par lequel il a tué Uri, le mari de Bethsabée, et comment il a pris chez lui Bethsabée pour en faire sa concubine. Nathan répondit à David, « Le Seigneur pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as été cause que les ennemis du Seigneur ont blasphémé son nom, le fils qui t'est né va mourir. » Et David va faire des pénitences très très fortes pour essayer de changer la volonté divine, pour sauver le fils qui va naître de l'enfant qui va naître de Bethsabée. Mais Dieu a la suite dans les idées et Dieu va reprendre cet enfant. Et l'enfant va mourir malgré les pénitences de David. Donc Dieu punit même après que le péché ait été remis. C'est-à-dire Dieu a pardonné le péché de Nathan, mais il reste la peine à une dette de peine à payer. La dette de peine subsiste donc après que le péché a été écarté. Donc il faut bien se rendre compte de ce qu'on fait. Souvent on pêche et on ne se rend pas compte tout de suite des conséquences de ce que nous faisons, conséquences du péché. Alors il faut quand même réfléchir un petit peu à tout ça. Il se peut donc qu'un homme soit puni même après que Dieu lui a pardonné son péché. On le voit très bien dans toutes les pénitences des grands saints. Beaucoup de saints n'ont pas toujours très bien commencé leur vie. Ils ont tous très bien terminé, mais ils ont souvent mal commencé. On voit certains pécheurs qui se convertissent avec la grâce du bon Dieu faire des pénitences incroyables. Et il faut souvent que ces pénitences soient longues et fortes pour que le bon Dieu finalement pardonne non seulement le péché, mais la dette, la peine du péché. La tâche du péché, si vous voulez, ne s'efface pas par l'union de l'âme avec Dieu, et l'homme s'unit à Dieu par sa volonté. Pour effacer la tâche, il faut donc qu'il s'impose volontairement une peine en compensation de sa faute, ou qu'il subisse avec patience celle que Dieu lui envoie. Quoique la tâche soit effacée, que la blessure de la volonté n'existe plus, les autres puissances de l'âme que le péché a déréglé, n'en doivent pas moins subir une peine destinée à les guérir par les contraires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché a introduit un désordre dans l'âme, un désordre dans les puissances de l'âme, un désordre dans l'intelligence, dans la volonté, dans la racine, dans le concupiscible aussi. Il va falloir rattraper tout ça. Donc il faut considérer deux choses dans le péché. D'une part la faute, et deuxièmement la tâche qui en est la suite. Pour ce qui est de l'acte, donc c'est en bas de la page 63 sur le polycopié, pour ce qui est de l'acte, il est clair que dans tous les péchés actuels, l'acte cessant, la dette de peine demeure. Bon, voilà ce que dit saint Thomas, l'acte du péché, en effet, rend un homme passible de la peine dans la mesure où l'homme transgresse l'ordre de la justice divine. Il ne rentre dans l'ordre que par la compensation de la peine. Celle-ci rétablit, d'une certaine façon, l'égalité. Elle fait que celui qui a cédé plus qu'il ne devait à sa propre volonté, haut de la page 64 dans le polycopié, en agissant contre le commandement de Dieu, se rend aux exigences de la justice divine en subissant de bon cœur ou par force quelque chose qui contrarie sa volonté. Ce point, dit saint Thomas, est observé même dans les injustices faites aux hommes. On vise à rétablir intégralement la juste égalité par la compensation de la peine. Si est-il évident que pour le péché comme pour l'injustice commise, lorsque l'acte cesse, la dette de peine subsiste encore. Cela doit nous faire donc réfléchir aux conséquences de ce que nous avons fait. Un exemple classique que je donne souvent quand je prêche sur les retraites de saint Ignace, eh bien c'est pour expliquer justement les conséquences du péché, c'est ce qu'on appelle le péché de scandale. Imaginez une jeune fille, c'est l'exemple que je donne souvent parce que c'est un exemple facile à comprendre, en même temps très actuel malheureusement. Imaginez une jeune fille qui va faire ses courses dans un supermarché ou dans une grande surface quelconque, dans une grande ville, habillée de façon provocante. Bon, elle va circuler dans cette grande surface pendant une heure pour faire ses courses et rentre chez elle. Après, au cours de sa prière du soir, elle se rend compte qu'elle a offensé Dieu en s'habillant de façon provocante. Elle se confesse, par exemple le samedi suivant, elle se confesse et dit au prêtre « Mon père, je m'accuse de m'être habillé de façon provocante. » Bon, ça c'est le péché. Mais il faut considérer qu'il y a aussi une conséquence du péché que les jeunes filles, souvent d'ailleurs, ne pensent pas accuser. Je me suis habillé de façon provocante, mais pas simplement toute seule dans ma chambre, je me suis habillé de façon provocante et je me suis pavané avec cette tenue provocante dans une grande surface et des milliers de personnes m'ont vu. Donc je suis responsable, dans ce cas-là, de tous les péchés commis par toutes ces personnes qui m'ont vu et qui ont peut-être eu commis des péchés par pensée contre la pureté à cause de ma tenue. Eh bien, c'est pareil pour le péché. Vous voyez ? Cela doit nous aider à comprendre la gravité du péché. Le péché est grave, justement, parce que l'âme, en quelque sorte, est blessée par le péché. L'âme est blessée par le péché et il faut rattraper les choses. Pour cela que les pères de l'Église, à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ d'ailleurs, comparaient souvent le péché mortel à la lèpre. Parce que la lèpre est une maladie épouvantable, très fréquente au temps de notre Seigneur, en grande partie disparue aujourd'hui, Dieu merci. Mais la lèpre était une maladie épouvantable qui allait pourrir littéralement le corps. Le virus de la lèpre est un virus qui va pourrir les muscles et les os. Ils vont devenir comme de la pourriture vivante. Et donc la lèpre va provoquer sur le corps des malheureux lépreux des blessures, des escarres épouvantables, des grands trous même au milieu du visage, par exemple, des grands trous dans les muscles. Ça commence par les petites taches brunes qui se voient à peine. Et puis ensuite, le muscle et les os se décomposent littéralement. Eh bien, si les pères de l'Église utilisent cela, cet exemple, ce n'est pas pour rien, parce que la lèpre est au corps, ce que le péché mortel est à l'âme. Et donc Dieu guérit, notre Seigneur Jésus-Christ va guérir les lépreux pour bien faire comprendre que s'il est capable de guérir un corps malade, il sera capable évidemment aussi de guérir une âme malade. Alors tous les gens comprennent la gravité de la lèpre, ils ne pensent pas à comprendre, à essayer de comprendre au moins que le péché grave, le péché mortel, est une lèpre spirituelle. Alors c'est en prenant l'exemple d'une lèpre physique que ceux qui écoutaient notre Seigneur Jésus-Christ pouvaient comprendre que si la lèpre physique est déjà quelque chose d'épouvantable, bien qu'est-ce que doit être le péché ? Donc, il faut comprendre, méditer là-dessus pour comprendre la gravité du péché et ne pas ne pas penser que la confession efface le péché, puis c'est tout, il n'y a plus de conséquences, non. Un autre exemple qu'on peut donner pour expliquer, je dis souvent quand je parle aux enfants, imaginez un petit enfant qui a un enfant de, je sais pas, de 6 ans, qui a été insolent, très insolent à l'égard de sa mère. Bon, l'enfant est en train de jouer dehors, et l'enfant de 6 ans joue dehors, donc la maman l'appelle. Jeannot, rentre à la maison, j'ai besoin de toi. Et l'enfant désobéit, et non seulement désobéit, mais en plus se permet d'injurier sa mère en refusant l'obéissance. Évidemment, il y a un péché qui a été commis là contre l'auteur de ses jours et contre le principe d'autorité. Mais imaginez que cet enfant, dans sa prière du soir, faite avec ses parents, avec sa maman, entre autres, se rend compte qu'effectivement, j'ai blessé ma maman, j'ai désobéi à ma maman, j'ai injurié ma maman, et donc la maman lui fait comprendre qu'il a offensé Dieu. Alors l'enfant rentre en lui-même, embrasse sa maman et demande pardon. Très bien. Il ne faut pas croire que tout est terminé parce que l'enfant a demandé pardon. Qu'est-ce qu'il doit faire l'enfant ? Eh bien, l'enfant, le lendemain, va faire un effort tout particulier de sagesse pour rattraper sa désobéissance de la veille. Il va même peut-être, ce serait une bonne chose certainement dans ce cas-là, il va faire un beau dessin pour sa maman, il va mettre tout son amour dans son dessin, et puis il va faire et offrir son dessin à la maman. « Ah, c'est gentil, Jeannot, merci pour ce dessin. Pourquoi tu m'offres un dessin ?» Parce que hier, j'étais vraiment, vraiment odieux. Alors, je voudrais rattraper ça en vous offrant un dessin. Très bien. Et bien, on fait la même chose avec le bon Dieu. D'accord ? Donc, il faut penser à ces choses-là afin de réaliser la gravité du péché par ses conséquences. C'est souvent par les conséquences de nos actes qu'on comprend la gravité de l'acte. Parfois, on fait quelque chose, Un homme peut faire quelque chose de mal, il ne se rend pas très bien compte de ce qu'il a fait, et puis il est condamné par la justice humaine et il est condamné à 2 ans de prison à cause de ce qu'il a fait. Alors en prison, il va avoir le temps de méditer à la gravité de ce qu'il a fait, c'est grave, la preuve c'est que je suis en prison pour 2 ans, donc c'était vraiment grave. Et bien c'est la même chose avec le bon Dieu. Le bon Dieu ne nous met pas en prison ici-bas. Mais si nous mourons dans un état de haine de Dieu, il y aura la prison pour toute l'éternité, après la mort, qui s'appelle l'enfer. Donc attention à ces choses-là. Continuons, page 64, donc sur le polycopier, deuxième paragraphe. Si nous parlons de l'effacement de la tâche, alors il est manifeste que la tâche du péché ne peut être effacée de l'âme que lorsque celle-ci se retrouve unie à Dieu. Puis c'est en s'éloignant de lui qu'elle venait à perdre son propre éclat, ce qui est la tâche. La tâche, c'est quoi? C'est une, si vous voulez, une on peut expliquer ça par un exemple tout simple, c'est une espèce de poussière qui se met sur le beau diamant et on ne voit plus rien, on ne voit plus l'éclat du diamant parce que la poussière le recouvre. Et donc, il faut rattraper tout ça. L'homme s'unit à Dieu par sa volonté, ce que je viens d'expliquer, c'est pourquoi la tâche du péché ne peut être enlevée par l'homme à l'homme que sans que sa volonté accepte l'ordre de la justice divine. Il faut une compensation. Il faut donc que l'homme par lui-même, spontanément, ou en acceptant patiemment les peines que Dieu pourrait lui envoyer, rattrape, accepte sur lui cette punition en compensation des fautes passées. Donc la peine, conséquence du péché, le péché est pardonné, mais il faut maintenant accepter la peine qui suit le péché, a un caractère qu'on appelle de satisfaction. Satisfaction, c'est l'homme qui satisfait par rapport à Dieu, qui paye sa dette. Bon. Il est évident, il faut bien comprendre cela aussi, que lorsqu'on offense Dieu gravement par un péché mortel, la dette que nous avons à payer à cause de notre péché est une dette infinie parce que nous avons offensé un Dieu qui est infini par lui-même. Donc l'homme étant par nature fini ne peut pas rattraper quelque chose d'infini, c'est impossible. Et c'est parce que justement le péché mortel contient en lui-même quelque chose d'infini que Dieu a été obligé d'envoyer son propre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, s'incarner dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie le 25 mars, le jour de l'Annonciation, par le mystère de l'Incarnation, pour payer la dette. Puisque le mal était infini, il fallait un être infini pour rattraper ce péché infini, ce mal infini. Dieu seul étant infini, il fallait donc que Dieu lui-même, être infini par excellence, accepte par sa mort sur la croix de payer, en quelque sorte, les conséquences d'une folie infinie. Donc, par nous-mêmes, l'homme n'est pas capable de rattraper une erreur de caractère infini. Ce n'est pas possible. L'homme étant fini, il ne peut pas rattraper quelque chose d'infini, un mal infini qu'il a fait par le péché mortel. Et comme Dieu, par sa passion, a en quelque sorte payé la dette, il est évident qu'à ce moment-là, l'homme, en participant à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, en achevant ce qui manque à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, l'homme, en suivant cela notre Seigneur Jésus-Christ, va pouvoir utiliser la satisfaction déjà offerte par notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Christ meurt sur la croix, le Vendredi Saint, il établit en quelque sorte un acte de justice. Acceptant librement le sacrifice que lui a demandé son Père, il rétablit la justice entre Dieu et l'homme. Justice qui était brisée par le péché originel, et par le péché de l'homme. La tâche de la faute étant effacée, il peut subsister quand même une dette de peine, ce qu'on appelle la peine. La faute n'est plus là, la peine est toujours là. Et ce n'est plus toutefois une peine au sens absolu, mais une peine satisfactoire. Donc Dieu va se satisfaire en quelque sorte à cause de sa passion. N'oublions pas qu'il nous faut achever ce qui manque à la passion du Christ. Il nous faut justement achever ce qui manque à la passion du Christ en ajoutant nos petites souffrances voulues ou acceptées pleinement afin de rattraper les conséquences du péché. Donc la satisfaction est quelque chose de très important. N'oublions pas aussi que notre Seigneur Jésus-Christ, par son sacrifice, accomplit un acte de propitiation. Pas seulement de satisfaction, de propitiation. N'oublions pas les quatre fins de la messe. La plus importante, c'est la propitiation. Il y a aussi, bien sûr, la fin latrotique, la fin eucharistique, la fin impétratoire. Mais la plus importante, c'est la fin propitiatoire. Propitiatoire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par la Sainte Messe, puisque le sang lui-même de notre Seigneur Jésus-Christ est offert sur l'autel, notre Seigneur Jésus-Christ, en quelque sorte, par la Sainte Messe, va renouveler de nouveau le sacrifice de la croix. C'est pour cela qu'on dit que la Sainte Messe est la continuation, en quelque sorte, et la passion même de notre Seigneur Jésus-Christ, offerte de façon non sanglante. Mais c'est le même sacrifice. Renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. C'est la définition théologique de la Sainte Messe. La messe, c'est ça. Renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Donc, de même que notre Seigneur Jésus-Christ, au sommet du calvaire, le vendredi saint, va payer par sa mort, la mort de son humanité unie à la divinité, il va payer en quelque sorte, l'humanité étant unie à la divinité, il va payer en quelque sorte les conséquences du péché. De la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois que la Sainte Messe est offerte par un prêtre, la vraie messe est offerte par un vrai prêtre, il renouvelle le sacrifice de la croix. C'est pour cela que la messe est un sacrifice. La messe, ce n'est pas simplement faire mémoire de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous il y a 20 siècles. La messe est un sacrifice offert de façon non sanglante, mais un sacrifice quand même, par lequel notre Seigneur Jésus-Christ de nouveau se charge de nos péchés pour payer quelque chose que nous sommes incapables de payer par nous-mêmes. Cependant, attention, il ne faut pas se dire, bon, puisque notre Seigneur Jésus-Christ a payé une bonne fois pour toutes, c'est fait, terminé, on n'a plus rien à faire, il a fait tout le travail pour nous. Non. Encore une fois, rappelez-vous le texte, il faut achever ce qui manque à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut que nous participions à cette dette à payer, et c'est ce qu'on fait en faisant satisfaction, en satisfaisant soit par des pénitences volontaires, hein, comme le petit garçon qui veut faire pardonner, qui a fait mal au cœur de sa maman parce qu'il l'a copieusement injurié, donc il fait un petit sacrifice pour offrir à sa maman, lui montrer qu'il regrette vraiment ce qu'il a fait. C'est pareil pour nous, ce qu'on appelle la satisfaction. Hein. Donc, par la Sainte Messe, en quelque sorte, nous participons à la propitiation, dans le sens que nous participons à la satisfaction que notre Seigneur Jésus-Christ a offert le vendredi saint à son Père. La tâche s'effaçant, la dette ne subsiste plus avec le même caractère, et une fois la tâche effacée, on peut donc considérer comme guérie la blessure que le péché faisait à la volonté. Il faut, en quelque sorte, arrêter les dégâts et maintenant remonter à la source. Rappelez-vous cet exemple que je donne très souvent parce qu'à mon avis, il est très, très pertinent. Si on est tombé dans une rivière et qu'on est entraîné par le courant furieux de la rivière, il ne s'agit pas au bout d'un certain temps d'arriver à s'arrêter sur un rocher. Ça ne suffit pas, il faut maintenant remonter le courant pour revenir à son point de départ. C'est ce qu'on fait justement par la pénitence. La peine est encore requise pour la guérison des autres facultés de l'âme que la faute passée avait déréglées. Il y a un dérèglement, une révolution qui est introduite dans l'intelligence, dans la volonté, dans l'irascible, dans le concupiscible. Si bien qu'il faut maintenant les soigner par un traitement contraire. Donc si l'intelligence a surtout été blessée, eh bien, il va falloir soigner l'intelligence. Si c'est la volonté ou les racines ou les concupiscibles qui ont été blessés, il va falloir rattraper en guérissant surtout la partie malade de la volonté, du concupiscible ou de l'irascible. La peine est donc requise pour rétablir l'équilibre de la justice. En stricte justice, on ne peut pas. L'homme ne peut pas rattraper quelque chose d'infini par lui-même. Donc la seule solution pour rattraper l'infinité du péché commis contre un Dieu infini, c'est d'utiliser la réparation déjà faite par notre Seigneur Jésus-Christ qui offre son corps uni à sa divinité, en sacrifice sur la croix. Il importe donc que l'expiation édifie ceux que la faute a scandalisés. Lorsque, c'est le cas de l'exemple que je donnais tout à l'heure, la jeune fille qui a scandalisé tout le monde en étant habillée de façon provocante dans une grande surface, sur une grande surface, dans un grand magasin, il va falloir maintenant rétablir la faute. Et quand nous avons, ça m'est arrivé souvent d'avoir par exemple des jeunes filles, pour toi, des exemples aussi pour les hommes, hein, les hommes ne sont pas plus malins, rassurez-vous. Quand une jeune fille s'accuse en confession générale, par exemple, d'avoir s'est habillée de façon provocante pendant longtemps, d'avoir scandalisé beaucoup de personnes, d'avoir provoqué beaucoup de péchés à cause de sa tenue, eh bien, j'explique qu'il faut maintenant rattraper. Et la meilleure façon de rattraper, c'est qu'auprès des gens qui étaient habitués à la voir habillée de façon provocante, après la retraite, elle change complètement de style vestimentaire, qu'elle s'habille de façon féminine, belle, honorable, mais en même temps, de façon respectueuse de son corps et de son âme créée à l'image de Dieu, et que par sa façon de s'habiller comme une vraie catholique, elle rattrape en grande partie le scandale. Et les gens qui ont été scandalisés par elle auparavant diront « Tiens, cette jeune fille, elle a complètement changé, maintenant elle est habillée comme une belle catholique, comme une bonne catholique, et manifestement, elle cherche à rattraper les bêtises qu'elle a faites dans le passé. » Dieu, qui voit ses efforts à ce moment-là, accepte de pardonner facilement. Donc, il importe, encore une fois, que l'expiation édifie ceux que la faute a scandalisés. C'est ce qui se voit dans l'exemple de David. Donc, c'est pourquoi nul ne subit de dommages dans les biens des âmes sans faute personnelle. Donc, il faut rattraper cette faute personnelle. Alors, saint Thomas explique bien tout ça dans l'article 7 de la question 87. Toute peine est-elle imposée par une faute? Donc il explique qu'il y a des peines pures et des peines satisfactoires. Hein. Un homme donc qui n'a pas péché supporte par amour celle qu'un autre a méritée. C'est ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ avec nous. Bon. Le Christ lui-même a souffert pour nos péchés une peine de ce genre. La peine proprement dite est toujours infligée pour un péché personnel. Donc, puisque nous avons souvent, par le péché mortel, blessé les biens de l'âme, les biens du corps et les biens extérieurs, mal utilisé les biens extérieurs, il va falloir rattraper tout ça à ces trois niveaux. Les biens de l'homme sont donc de trois sortes, dit saint Thomas, ceux de l'âme, ceux du corps et les biens extérieurs. Donc, supporter une perte dans un bien inférieur peut obtenir un avantage dans un bien plus élevé. Perdre son argent pour recouvrer la santé du corps, souffrir dans sa fortune ou dans son corps pour le salut de son âme ou pour la gloire de Dieu, est-ce là un mal absolu? Non, c'est un mal relatif qui, loin de constituer une peine simple et pure, ressemble bien plutôt à une médecine. C'est comme, si vous voulez, le médecin qui ampute le membre pour sauver l'organisme tout entier parce que le membre est atteint d'une nécrose qui va envahir tout le corps. Hein. Les médecins, donc, dit saint Thomas, pour rappeler un malade à la santé, ne lui prescrivent-ils pas des potions amères? De tels maux n'ont pour cause le péché qu'en ce sens que le péché originel les a rendus nécessaires comme des peines médicinales. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ permet des peines dans notre vie affective, dans notre vie intellectuelle, dans la volonté, dans les racines, dans le cuisine, il permet des peines qui vont justement nous permettre de rattraper les catastrophes que nous avons provoquées. Donc saint Thomas, par exemple, explique bien que les défauts de naissance, les exemples qu'on peut donner, les défauts de naissance aussi bien que les maladies sont les effets et la peine du péché originel. Il n'y avait pas de maladie pour Adam et Ève avant le péché originel. La divine providence va donc faire servir ces maladies au salut des hommes, tantôt comme moyen de mériter, tantôt comme avertissement. On a rappelé qu'on n'est pas des anges. Pas encore. Les infirmités humaines sont destinées ainsi à procurer la gloire de Dieu dans certaines circonstances. Peut-être viendra-t-il à la pensée de quelqu'un que si toute peine était un châtiment du péché, on ne verrait pas les justes dans l'affliction et les méchants combler de jouissance, d'honneur et de richesse. Ça, c'est une objection qu'on entend très souvent. Et monsieur l'abbé, comment se fait-il que les bons catholiques ont des tas de problèmes? Il suffit de voir ce qui se passe maintenant avec les familles catholiques en France. On est attaqué partout. Les hommes risquent de perdre leur travail parce qu'ils agissent comme des catholiques dans leur entreprise. On n'arrive plus à trouver d'école correcte parce que nos enfants qu'on veut voir conserver la foi sont incapables de rester, ne peuvent pas rester dans ces écoles pourries qui vont détruire complètement leurs âmes. Et donc on est obligé de passer par des épreuves terribles, nous les catholiques. Et par contre, on voit que les païens, les bandits, ceux qui vivent dans le péché mortel jusqu'au cou, ils ont tous les biens matériels. La réponse est toute simple. Dieu récompense maintenant matériellement, avec des choses matérielles, des âmes qu'il sait ne jamais pouvoir récompenser plus tard. Malheur aux riches, comme on dit. Ça ne veut pas dire qu'être riche en soi, c'est un péché, bien sûr que non, pas ce que je veux dire. Mais souvent, les bandits, ceux qui vivent dans le péché à longueur de journée, sont comblés de biens matériels. Parce que le bon Dieu sait qu'il ne pourra pas les récompenser plus tard, donc il les récompense maintenant. Au contraire, les biens spirituels ont une valeur infinie, mais on les comprendra et on les aura après la mort. C'est Saint-Pierre d'Alcantara, le grand mystique espagnol, donc, qui est apparu à, si mes souvenirs sont égaux, c'était à Sainte-Thérèse d'Avila. Saint-Pierre d'Alcantara avait fait des pénitences terribles pendant sa vie, un homme très pénitent. Et après sa mort, il est apparu à Sainte-Thérèse d'Avila en lui disant, lui est apparu rayonnant de gloire au ciel, en lui disant « Bienheureuse pénitence qui m'a valu une telle récompense. Bienheureuse pénitence qui m'a valu une telle récompense. » Donc il faut bien comprendre que les biens temporels et les biens corporels sont peu importants en comparaison avec les biens éternels et spirituels. La justice suprême doit donner donc ces derniers aux hommes vertueux et leur distribuer ensuite, autant qu'il est nécessaire pour la vertu même, des biens ou des maux temporels. Donc, le plus important, ce sont d'abord les biens spirituels. Le jour où vous allez mourir, le jour où je vais mourir, le bon Dieu va d'abord me demander si j'ai en moi les biens spirituels, à savoir le premier, à savoir la présence de Dieu lui-même dans mon âme par la grâce sanctifiante. Alors, on peut aussi se poser la question, on continue, donc on est au milieu de la page 64 dans le polycopier. On continue avec l'article 8 de cette question numéro 87. Donc, tout ce traité est très important, mais je synthétise un petit peu. Saint Thomas pose la question, est-on puni pour les péchés d'un autre? Voilà ce que dit Saint Thomas. Donc, vous avez ce texte en caractère gras sur le polycopier au milieu de la page 64. On dit, donc c'est 1, 2, 3, 4e paragraphe, on dit que les péchés des parents sont punis chez leurs enfants. Parce que les enfants élevés dans les péchés de leurs parents sont encore plus enclins à pécher, tant à cause de l'habitude qu'ils ont prise que de l'exemple que leur a fait suivre l'autorité de leurs parents. Et les enfants méritent même d'être châtiés plus que les parents si la vue des peines infligées à ceux-ci n'a pas réussi à les corriger eux-mêmes. Donc, notre Seigneur Saint Thomas va utiliser une citation du livre de l'Exode pour expliquer tout cela. « Je suis un Dieu jaloux qui venge l'iniquité des pères sur leurs enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération dans ceux qui me haïssent. » Cependant, il faut tempérer cela avec une autre citation que Saint Thomas va utiliser, une citation du prophète Ézéchiel. « Le Fils ne portera pas l'iniquité du Père. » Donc, il ne faut pas dire non plus que ce serait faux de dire que les souffrances des enfants sont directement des conséquences des souffrances des parents. Non, ça c'est faux. Il peut y avoir par exemple des parents très vertueux qui ont des enfants qui ont des gros problèmes de santé, un cancer par exemple qui se déclare, une myélite qui se déclare ou je ne sais pas quoi, quelque chose de ce genre, qui se déclare sur l'enfant ou le fils de la famille qui se retrouve à l'hôpital sur une chaise roulante pour toute sa vie parce qu'il a un problème à la moelle épinière, quelque chose de ce genre, eh bien, ce n'est pas forcément à cause des parents. Cependant, dans certains cas, les parents vont mettre sur le dos de leurs enfants des conséquences. Entre autres, si les parents ne font pas leur devoir d'État. N'oubliez pas les trois grands devoirs d'État des parents. J'ai déjà expliqué ça longuement. Je n'y reviens pas. Le devoir de magistère, le ministère du gouvernement, d'enseigner, de sanctifier, de gouverner. C'est évident que les parents qui refusent de sanctifier leurs enfants, qui refusent de gouverner leurs enfants, qui refusent d'enseigner leurs enfants, vont devoir payer très cher leurs erreurs. Donc attention à transmettre. Je vous l'ai déjà dit bien souvent, il faut transmettre. Vous êtes obligé sous peine de péché gravissime de transmettre votre foi à vos enfants. Le drame, c'est que plus on descend dans les générations, plus souvent la foi se diminue. Alors saint Thomas va expliquer donc dans cet article 8, voilà ce qu'il dit. Parle-t-on de la peine infligée à titre de châtiment, les hommes ne sont punis que pour leur péché personnel. Qui dit châtiment, directement, dit péché personnel. Mais, s'il est question des peines médicinales, l'un peut être puni pour les péchés d'un autre, car si la perte des biens corporels et même de la vie a pour but le salut de l'âme, Dieu ou les hommes peuvent imposer ces peines à l'occasion des péchés d'autrui. Pour ça, par exemple, même en droit civil, un enfant mineur qui fait des grosses bêtises, qui provoque des destructions, par exemple, qui abîme le matériel d'autrui, qui vole, etc., il est pris par la police, il est mineur, les parents vont devoir payer des dégâts. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui sont responsables des enfants. Bon, par contre, pour les peines spirituelles, si vous voulez, ne sont jamais médicinales. Attention, ça c'est un point très important chez saint Thomas d'Aquin. Les peines spirituelles ne sont jamais médicinales. Les biens de l'âme, donc, ne sont pas subordonnés à des biens plus grands. On ne les perd que par une faute personnelle. Comme le remarque saint Augustin, dit saint Thomas, le fils n'est jamais puni d'une peine spirituelle pour le péché de son père, parce que le fils n'est pas partie essentielle du père quant à l'âme. « Toutes les âmes sont à moi, dit le Seigneur, par la bouche de son prophète, Ézéchiel. » Donc, il faut, vous voyez, en méditant tout ça, c'est pour ça que ce traité est tellement important. Il nous aide à comprendre ce qu'est le péché. N'oublions pas qu'une des choses les plus importantes que fait, malheureusement, contre la foi catholique, le monde moderne, c'est de couvrir le péché, si vous voulez, de parfum ou de peinture dorée, comme vous voulez, pour qu'on ne voit plus la laideur du péché. À force de si vous voulez, de généraliser le péché, on finit par considérer le péché comme quelque chose de normal. On entend ça tout le temps. Monsieur l'abbé, c'est plus un péché, tout le monde le fait. Tout le temps, on entend ça. Même au confessionnal, de la part parfois de gens qui sont catholiques, même monsieur l'abbé, c'est pas un péché, ce que je suis, tout le monde le fait. Et alors ? Parce que tout le monde est capable maintenant de vendre père et mère pour mettre père et mère en esclavage. Pour avoir un peu plus d'argent, ça veut dire qu'on a le droit de le faire ? Bien sûr que non. Alors, avançons un petit peu. Donc, saint Thomas, dans sa somme, va maintenant, avec la question 88, donc de la prima secundae, va se poser la question de comment distinguer le péché véniel du péché mortel. Donc, voilà ce qu'il dit. Je vais résumer l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Donc, on en est maintenant au milieu de la page 64 du polycopié. Donc je résume ce que je n'ai pas encore expliqué, résumé de saint Thomas d'Aquin, de l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Donc un péché est appelé mortel. Pourquoi ? Parce qu'il produit un mal irréparable. Bon, la mort est quelque chose qui détruit complètement l'individu. Dieu, évidemment, attention, est capable de rendre un mort à la vie. Il l'a fait plusieurs fois, à droite avec Saint-Lazare. Mais en soi, le mal est irréparable. Le principe de la vie spirituelle, dont la vertu est la règle, consiste dans le rapport de l'homme avec sa fin dernière. Quand ce rapport est détruit, il ne peut être établi par aucun principe intrinsèque à l'homme lui-même. L'homme a été créé pour quoi ? Pour louer, honorer, servir Dieu, sauver son âme. Bon, c'est le but de sa vie. C'est la fin dernière de l'homme. La fin dernière de l'homme, c'est quoi ? C'est le ciel. par le péché mortel, je me coupe de cette fin dernière. À tel point qu'un homme qui meurt en état de péché mortel, même avec un seul péché mortel non pardonné sur sa conscience, est absolument incapable par ses propres forces d'aller au ciel. Il ne peut plus, le péché mortel, faire de façon absolue la porte du ciel. Il n'est pas possible pour un homme en état de péché mortel d'aller au ciel s'il meurt comme cela. Certes, le bon Dieu, dans sa miséricorde, nous pardonne nos péchés, comme il a pardonné au roi David. Il nous pardonne nos péchés, c'est pour ça qu'il nous a donné le sacrement de pénitence, c'est pour ça que l'Église enseigne que par un simple acte de contrition parfaite, de regretter ses péchés par pur amour de Dieu, le simple acte de contrition parfaite efface tous les péchés. Cependant, il faut réfléchir aux conséquences de ce que nous faisons. Donc, si le péché détruit le rapport à la fin dernière, si ce rapport est détruit, il ne peut être rétabli par aucun principe intrinsèque à l'homme lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme par lui-même n'est pas capable de refabriquer, de refaire en quelque sorte, reprovoquer de reprovoquer le contact avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme, si vous voulez, on peut prendre une image... Une image toute simple. Le péché mortel, c'est, si vous voulez, un coup de couteau par lequel on coupe le câble électrique. Le câble électrique est coupé, il n'y a plus de courant qui passe. Bon, tant que le câble est coupé, il n'y a rien qui passera. Le courant ne peut pas passer par un câble qui est sectionné, c'est impossible. Par contre, il est possible, pour un électricien ou quelqu'un qui s'y connaît, de remettre la connexion, refabriquer le câble, ou remettre les deux parties de câble bout à bout et les ligaturer ensemble pour que de nouveau le courant passe. Mais en soi, si le câble est sectionné, le courant ne peut pas passer. Alors au contraire, dit saint Thomas, les péchés qui sauvegardent la fin dernière, qui ne détruisent pas l'ordre à la fin dernière, tout en impliquant un certain désordre dans ceux qui la concernent, sont appelés véniels, parce qu'ils sont réparables au moyen de la fin elle-même. Vénia, c'est ça, c'est la petite faute. La vénia, c'est dans la vie religieuse, ce qu'on appelle la vénia, c'est la petite pénitence qu'on fait pour attraper une petite offense. Voilà, on fait une faute dans la psalmodie, on se met à genoux, par exemple, en se frappant la coulpe, pour attraper la faute qu'on vient de faire, qui a gêné tout le monde. Donc, péché mortel détruit le péché mortel détruit le rapport à la fin dernière, le péché véniel sauvegarde la fin dernière, mais va introduire un certain désordre. Le péché, c'est un désordre. Le péché véniel n'est donc appelé péché que dans un sens imparfait relativement au péché mortel. Comme on appelle improprement être les accidents d'une substance. Il n'est pas contre la loi. Celui qui pèche véniellement ne fait pas ce que la loi défend et n'omet pas non plus ce qu'elle rend obligatoire par un précepte. Mais il agit en dehors de la loi, en ce qu'il n'observe pas raisonnablement le mode intentionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Pardon. Ça veut dire que le péché véniel introduit un désordre. Les notions, il faut bien comprendre donc ces notions qui permettent de distinguer le péché mortel du péché véniel. L'un transgresse la loi, l'autre l'observe, mais pas comme il faut. Le péché véniel n'agit pas contre la loi, mais il sort des intentions de la loi. Donc, le péché véniel introduit un désordre. Alors, il ne faut pas dire ce qu'on entend aussi très souvent. Monsieur l'abbé, je veux faire quelque chose, est-ce que c'est un péché? C'est une question qu'on nous pose souvent. Monsieur l'abbé, j'ai prévu de faire telle chose, est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est un péché mortel plutôt? Il faut être honnête, souvent il m'arrive de répondre non, c'est pas un péché mortel, c'est un péché véniel. Ah bon, répond l'autre personne, alors dans ce cas-là je peux le faire parce que ce n'est qu'un péché véniel. Non, un péché véniel c'est un péché, attention. Et cette idée moderne, qui est aussi très grave, qui consiste à dire, puisque ce n'est pas un péché mortel, ce n'est qu'un péché véniel, donc je peux le faire, prouve qu'on n'aime pas le bon Dieu. C'est comme un époux qui dirait à son époux, je veux faire quelque chose, est-ce que ça va gravement t'offenser si je fais ça? Et l'épouse répond, non, pas gravement, mais ça me ferait de la peine que tu fasses ça. L'homme, l'époux n'a pas le droit de se dire « Ah bon, ça ne va pas l'offenser gravement, je ne vais pas offenser gravement mon épouse en faisant telle chose, donc je peux le faire. » Non, parce que vous lui faites de la peine et qu'un homme qui aime son épouse ne fait pas de peine volontairement à son épouse. Alors, il est évident que, on verra ça après, dans d'autres parties de la somme, qu'il faut distinguer évidemment entre tous les péchés mortels qui sont plus graves que les autres. Les péchés, par exemple, qui s'opposent directement à la charité, sont plus graves, sont toujours mortels dans leur genre. On verra ça plus tard. Alors, saint Thomas, on continue, se demande s'il est possible que le péché véniel dispose au péché mortel. On va reprendre un petit peu tout ça. Donc, prenez le polycopier. Polycopier, donc page 64. Au milieu de la page, voilà ce que dit saint Thomas ici. Le péché, donc, est une parole. C'est une citation de saint Augustin, je crois. Le péché est une parole, un acte ou un désir contraire à la loi éternelle. Définition de saint Augustin. Le principe de la vie spirituelle conforme à la vertu, c'est l'ordre de la fin ultime. Si cet ordre est détruit, on ne peut le restaurer que par un principe intrinsèque, mais seulement par la vertu divine. Dieu seul peut réparer un mal infini. Si le désordre est seulement dans les moyens, à ce moment-là on est dans le péché véniel seulement, la fin le répare, comme la vérité des principes corrige l'erreur, si celle-ci ne tombe que sur la conclusion. Donc on a déjà expliqué ça avec les textes de saint Thomas d'Aquin. Donc par conséquent, dit saint Thomas, le désordre relatif à la fin ultime ne peut être réparé par rien d'autre qui soit plus fondamental que lui, pas plus que ne peut être redressée l'erreur qui porte sur les principes. J'ai déjà expliqué, je répète les choses, il faut répéter tout le temps pour que les choses rentrent. C'est pourquoi les péchés de cet ordre sont appelés mortels. Mortels, mors en latin, c'est la mort. Ils sont irréparables en tant que tels parce qu'ils coupent de la fin pour laquelle nous sommes nés, nous sommes créés. Au contraire, donc, je résume là en bas de la page 64, chez le polycopier. Des péchés qui représentent un désordre dans les moyens sont comme des véniels, sont réparables parce qu'on garde le sens de la fin ultime. Le péché véniel donc n'est pas contre la loi parce que celui qui pêche véniellement ne fait pas ce que la loi prohibe, interdit et ne met pas non plus ce qu'elle oblige par ce précepte. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer avec le texte de saint Thomas. Il agit en dehors de la loi parce qu'il n'observe pas la mesure raisonnable que la loi a en vue. Donc le péché véniel a introduit déjà une certaine révolte dans l'âme, un caractère déjà déraisonnable. Celui qui pêche véniellement, donc s'attache au bien temporel, non comme quelqu'un qui en jouit, puisqu'il n'aimait pas sa fin, mais comme quelqu'un qui en use, les rapportant à Dieu non en acte, mais par habitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va utiliser quelque chose qu'on devrait rapporter à sa fin. En les utilisant, on les coupe en quelque sorte quand même un petit peu de la fin pour laquelle ils ont été créés. Je ne mets pas ma fin, je ne change pas la fin pour laquelle j'ai été créé, je la garde, mais j'utilise des choses sur le côté que je ne devrais pas en fait utiliser parce que je fais déjà de la peine au bon Dieu. Le péché véniel fait de la peine au bon Dieu, attention. L'homme peut en effet aimer la créature soit moins que Dieu, ce qui est péché véniellement, soit plus que Dieu, ce qui est péché mortellement. Si je place une créature au-dessus de Dieu, il y a péché mortel. Si je place une créature en dessous de Dieu, mais que je fais déjà de l'ombre au bon Dieu par cette créature, cet attachement à cette créature, il y a péché véniel. Si, au contraire, je place la créature au-dessus de Dieu, cette créature devient Dieu pour moi, et à ce moment-là, j'introduis un péché mortel. Du fait que quelqu'un choisit ce qui contredit la charité divine, il est convaincu de le préférer à celle-ci, par conséquent de l'aimer plus que Dieu. Aimer quelqu'un plus que Dieu, c'est déjà un péché mortel. Donc celui qui pêche dans le genre véniel transgresse un ordre, et par le fait même qu'il s'accoutume à ne pas soumettre sa volonté dans les petites choses à l'ordre voulu, se dispose à ne pas la soumettre non plus aux exigences de la fin ultime, en faisant un choix qui sera un péché mortel. Page 65 en haut de la page. Donc attention, même si tous les péchés véniels du monde ne peuvent être passibles de peine autant qu'un seul péché mortel, tous les péchés véniels du monde rassemblés ne font pas un péché mortel, attention, mais le péché véniel amène au péché mortel. Donc c'est là ce que saint Thomas va traiter dans l'article 4 de la question 88 du péché véniel. Peut-il devenir mortel ? Voilà ce qu'il dit. Donc, tous les péchés véniels du monde ne constituent pas un seul péché mortel. Cependant, attention, les circonstances, explique-t-il à l'article 5 de la question 88, des circonstances peuvent changer le péché véniel en péché mortel. Certaines circonstances vont introduire une difformité d'un autre genre et le péché véniel peut ainsi être changé en péché mortel. De même, un péché mortel dans son genre peut n'être que véniel à cause de l'imperfection de l'acte. L'imperfection de l'acte, par exemple parce qu'on est à moitié endormi. Donc, prenez par exemple une mauvaise pensée contre la pureté. Si elle est acceptée en soi, c'est un péché mortel, attention. Ce que Dieu a bien dit, tu ne désireras pas la femme de ton prochain. Mais si je suis à moitié endormi, ça diminue la responsabilité et donc c'est un changement dans les circonstances qui rend l'acte imparfait dans ce cas-là, l'acte incomplet, si vous voulez, dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir péché mortel. Alors, avançons un petit peu, donc page 65, en haut de la page. Texte ici, donc question 89 de saint Thomas d'Aquin de la Prima Secondae, le péché véniel considéré en lui-même. Et donc il va se poser la question si le péché véniel va produire dans l'âme une tâche comme le péché mortel. Alors, voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin, donc c'est en haut de la page 65, 5, deuxième paragraphe de la page 65 sur le polycopier. Il est impossible qu'une circonstance fasse un péché véniel, un péché mortel, si elle n'apporte pas une laideur d'un autre genre. En effet, dit-il, la laideur du péché véniel consiste en ce qu'il comporte un désordre dans les moyens, alors que la laideur du péché mortel implique un désordre à l'égard de la fin ultime. Si la fin est viciée, on se coupe de la fin, péché mortel, j'ai déjà expliqué. Si la fin est maintenue, F-I-N, est maintenue, mais qu'on pêche au niveau des moyens, à ce moment-là, c'est péché véniel. Manifestement donc, la circonstance ne peut faire d'un péché véniel un péché mortel lorsqu'elle demeure une circonstance, mais seulement lorsqu'elle doit, qu'elle fait passer à une autre espèce l'acte moral et qu'elle en devient en quelque sorte la différence spécifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la circonstance fait que de moyen on passe, de l'attaque au moyen on passe à l'attaque à la fin, à ce moment-là, le péché mortel. Donc certainement explique cela, que le péché véniel produit une tâche dans l'âme. Et il y a dans nos âmes, dit-il, une beauté habituelle, pour ainsi dire intrinsèque, puis une clarté actuelle qui en est comme l'éclat extérieur. Le péché véniel ternit la clarté actuelle, mais il ne s'oppose pas à la beauté habituelle. C'est-à-dire qu'il ne s'oppose pas à la beauté substantielle de l'âme. L'âme reste une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, même s'il y a péché véniel. Le péché véniel donc ternit la clarté actuelle, mais ne s'oppose pas à la structure même de l'âme. Au contraire, le péché mortel va attaquer la structure même de l'âme. On peut dire ça comme ça. Donc, le péché véniel, si vous voulez, se multiplie dans une âme sans ruiner l'édifice spirituel. Que la fin est toujours là. Alors qu'au contraire, le péché mortel va attaquer la fin. Et donc, il n'y a plus d'union, de rapport avec Dieu. Dans le péché véniel, l'âme au péché véniel est toujours en union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a plusieurs degrés de péché véniel, hein, même dans le péché véniel, il y a des degrés comme il y a des degrés dans le péché mortel. Il y a une citation là qu'utilise saint Thomas de saint Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12. Verset un peu bizarre. Celui qui élève un édifice de bois, de foin ou de paille sera sauvé par le feu. Et bien en fait, saint Thomas explique que ces trois objets, le bois, le foin et la paille, représentent les différents degrés de péché véniel. Le bois, en effet, dure longtemps dans le feu. La paille s'y consomme rapidement. Le foin tient le milieu entre le bois et la paille. Ces similitudes nous marquent que les péchés véniels sont effacés plus ou moins facilement par le feu, suivant leur gravité en leur adhérence ou leur adhérence à l'âme. Alors, là, on touche aussi à un autre point extrêmement important, à savoir s'il était possible, dans l'état de justice originelle, pour Adam et Ève, de pécher vénialement seulement. Bon, on réexplique. Donc on est au troisième paragraphe de la page 65 dans le Polycopier. Dans le péché véniel, l'homme n'adhère pas à la créature comme à sa fin ultime. Ceux qui sont dégagés du soin des choses temporelles, bien que parfois ils pêchent vénialement, ne commettent cependant que des légers péchés véniels et s'en purifient très fréquemment par leur ferveur de leur charité. Il suffit par exemple de faire un simple signe de croix avec l'eau bénite à l'entrée de la chapelle avec amour de Dieu, ça efface déjà le péché véniel. Au moins certains. Cela, au contraire, aussi cela ne baptise pas avec des péchés véniels parce qu'ils gardent ceci peu longtemps. La charité, la ferveur de la charité face aux péchés véniels. Au contraire, les péchés véniels de ceux qui sont occupés aux affaires terrestres restent plus longtemps parce qu'ils ne peuvent avoir aussi fréquemment la ressource d'effacer ces péchés véniels par la ferveur de la charité. C'est ça que la ferveur de la charité est importante. Si je diminue la ferveur de la charité en moi, parce que je pense moins à un bon Dieu, j'aurai plus de mal à effacer les péchés véniels par des actions charitables et des pensées charitables. Il faut faire attention à ces choses-là. Donc, autre chose, donc on commence la question ici, la question, est-ce qu'on en est ? Question 89. Question 89, article 3. Donc saint Thomas va se poser la question de savoir si dans l'état d'innocence on pouvait pécher vénialement. Adam et Ève pouvaient pécher vénialement. On enseigne communément qu'ils ne le pouvaient pas. Donc on ne peut pas. C'est là l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Il s'explique ainsi. Il paraît évident qu'Adam n'a pu commettre un péché véniel dans son genre avant que par le péché mortel, il n'eût perdu l'intégrité de son état primitif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant le péché originel qui était un péché actuel pour Adam et Ève, attention, pour nous c'est un simple péché de nature, pour Adam et Ève c'est un péché actuel, donc un péché mortel. Eh bien, pour Adam et Ève, tant qu'ils n'avaient pas commis le péché véniel, tant qu'ils n'avaient pas commis le péché originel de désobéissance à Dieu, ils ne pouvaient pas commettre un péché véniel. Mais une fois que le péché de désobéissance à Dieu avait été commis, le péché originel, qui était un péché mortel pour Adam et Ève, il est évident qu'ils ont introduit une révolution dans l'âme avec toutes ses conséquences. Et donc là, évidemment, leur âme était malheureusement ouverte à tous les péchés véniels et les péchés mortels. Saint Thomas explique bien, donc j'ai expliqué, mais je reprends. Nous péchons véniellement de manière, à cause de l'imperfection de l'acte quand il s'agit de péché mortel dans le genre, ou à cause du dérèglement qui porte sur les moyens, tout en sauvegardant l'ordre de la fin dernière. Or, ces deux sortes de fautes véniels proviennent d'un défaut d'ordre et de soumission, c'est une désobéissance. Aucun désordre n'était possible dans l'homme que par la révolte de sa raison contre Dieu, ce qui se fit par le péché mortel. Jusqu'à ce moment, l'homme dans l'état d'innocence ne pouvait pécher vénialement. Donc Adam et Ève ne pouvaient pas commettre un péché véniel avant d'avoir commis le péché originel. L'orgueil donc qui se glissa insensiblement dans le cœur d'Adam fut son premier péché mortel. Alors, revenons au Polycopier, page 65. Voilà pourquoi, dit saint Thomas, il est impossible que le désordre s'introduise chez l'homme à moins de commencer par une insubordination de la partie suprême de l'homme à l'égard de Dieu, ce qui est le fait du péché mortel. Donc dans tout péché mortel, il y a une désobéissance qui est là. D'où il est évident que l'homme dans l'état d'innocence n'a pu pécher véniellement avant d'avoir péché mortellement. D'accord ? Donc, je répète, dans l'état de justice originelle, avant le péché originel, Adam et Ève ne pouvaient pas pécher mortellement. Et Saint Thomas va se poser ensuite la même question concernant les anges. Les anges, bons ou mauvais, pouvaient-ils pécher véniellement ? C'est la question 88, article 4. Et voilà ce qu'il répond. Les mauvais anges qui n'ont pas d'autre but. Les bons anges confirmés dans la grâce ont une perfection de beaucoup supérieure à celle du premier homme. Ils ne peuvent pécher d'aucune manière. Donc les bons anges actuellement sont confirmés en grâce. Et parce qu'ils sont confirmés en grâce, ils ne peuvent plus pécher ni mortellement ni véniellement. Les mauvais anges, au contraire, qui n'ont pas d'autre but que la satisfaction de leur orgueil, pêchent mortellement dans tout ce qu'ils font, à raison de la fin qu'ils se proposent. Donc, dans le péché véniel, conclut saint Thomas, ne pourrait exister ni dans les bons anges, ni dans les mauvais anges. Dans les mauvais anges, il ne peut exister que des péchés mortels, puisque la fin est coupée avec Dieu. Donc toutes les actions, en quelque sorte, des démons ne peuvent être que des péchés mortels à cause de leur nature perverse. Par contre, évidemment, pour les bons anges, ils ne peuvent pas pécher véniellement. Donc un mauvais ange ne peut plus faire un péché véniel, ils sont tous mortels, ces péchés. D'accord ? Alors, c'est ce qu'on explique ici. C'est pourquoi l'esprit de l'ange, dit saint Thomas, ne se porte vers les moyens que selon qu'ils sont commandés par la fin. À cause de cela, la nature même des anges exige qu'il ne puisse y avoir en eux de désordre à l'égard des moyens. Et s'il y a en même temps du désordre à l'égard de la fin elle-même, ce qui a lieu dans le péché mortel. Ça vient de la nature même de l'ange. L'ange, j'ai expliqué ça dans le catéchisme, je répète rapidement, l'ange, ayant si vous voyez, une intelligence largement supérieure à la nôtre, lorsqu'il choisit quelque chose, il met sa volonté dans la chose qu'il a choisie de façon définitive. L'homme, pour comprendre les choses, est obligé d'utiliser les sens, les cinq sens que bon Dieu lui a donnés. Il voit, il touche, il sent, etc. Et il va se faire une idée de ce qui se passe à l'extérieur dans son cerveau par une image intellectuelle. Donc l'homme est capable de, malheureusement, commettre un péché mortel, mais après un péché mortel, il est capable de regretter son péché mortel et de demander pardon, parce qu'il comprend les choses par abstraction. L'ange, au contraire, ne peut pas faire ça. L'ange comprend les choses par intuition, comprend directement les choses. Il place sa volonté dans la chose qu'il a choisie, qui devient sa fin. Donc, si un ange pêche, c'est immédiatement un péché mortel. L'ange comprend les choses par intuition, alors que l'homme comprend les choses par abstraction. Donc, à cause de cela, la nature même des anges exige qu'il ne puisse y avoir en eux de désordre à l'égard des moyens, s'il y a en même temps de désordre à l'égard de la fin elle-même, ce qui a lieu dans le péché mortel. Les bons anges, c'est le texte du Polycopier là, qui reprend saint Thomas, les bons anges ne se portent à des moyens qu'en vue de la fin qu'on doit avoir, qui est Dieu. À cause de cela, tous leurs actes sont des actes de charité. Ainsi, ne peut-il y avoir en eux de péché véniel. Les mauvais anges, au contraire, ne se portent à rien que pour la fin de leur péché d'orgueil. Voilà comment en tout ils pêchent mortellement, quoi qu'ils fassent, du moins parce que c'est leur volonté propre. Alors, vous voyez, les conséquences du péché. Saint Thomas se pose aussi une autre question. Donc, je résume rapidement les derniers articles de la question 88. Article 5, les premiers mouvements de la chair sont-ils des péchés mortels chez les infidèles ? Voilà ce que dit saint Thomas. Les fautes des infidèles sont plus excusables que les nôtres à cause de leur ignorance. La grâce des sacrements rend nos péchés plus graves que ceux des infidèles. Attention. Quand on pêche mortellement, un catholique pêche mortellement, c'est bien plus grave qu'un païen qui pêche mortellement. Parce que le païen n'a pas l'aide des sacrements comme nous. Les premiers mouvements de la chair ne sont donc pas des péchés mortels chez les infidèles qui n'y consentent pas. Tant qu'il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de péché mortel. Donc, dernière question. Le péché véniel, dernier article, pardon, article 6 de la question 80, question 89, pardon. Question 89 du péché véniel considéré en lui-même, article 6, le péché véniel peut-il se rencontrer dans un homme avec le seul péché originel? La réponse est négative, non. Il est impossible que le péché véniel se rencontre dans quelqu'un avec le péché originel sans péché mortel. Les hommes sont punis pour le péché originel dans les limbes. Ils sont précipités en enfer dans le péché mortel. Mais c'est important ça, ça veut dire quoi? Je répète cette phrase. Il est impossible que le péché véniel se rencontre dans quelqu'un avec le péché originel sans un péché mortel. Ça veut dire que pour un homme qui n'est pas baptisé, donc qui a le péché originel en lui, comme tous les hommes créés par Dieu, eh bien un homme qui n'est pas baptisé, son premier péché sera toujours, s'il pêche, ce sera toujours un péché mortel. Parce qu'il est impossible, encore une fois, dit saint Thomas, que le péché véniel se rencontre dans quelqu'un avec le péché originel sans un péché mortel préalable. Les hommes sont punis donc pour le péché originel dans l'âme, ils sont précipités dans l'enfer pour le péché mortel. Vous voyez, c'est quelque chose d'important à comprendre, qui peut choquer, mais c'est ce qu'enseigne saint Thomas d'Aquin. Donc voilà pourquoi, dit saint Thomas, le péché véniel n'est pas dans l'homme seulement avec le péché originel, sans y être accompagné du péché mortel. L'homme ne peut avoir sous la conscience le péché véniel sans le péché mortel qu'après qu'il a obtenu par la grâce la rémission du péché originel et du péché mortel. Donc le baptême efface le péché mortel, et une fois que le baptême efface le péché originel, une fois que le péché originel est détruit, il est évident que les hommes continuent malheureusement de pécher, qu'on peut commettre un péché véniel immédiatement après le baptême. Par contre, avant le baptême, ce n'est pas possible, dit saint Thomas. Donc si quelqu'un qui n'est pas baptisé, donc qui a le péché originel, pêche, au début, ce sera toujours un péché mortel. Donc, il est impossible que le péché véniel se trouve dans l'homme seulement avec le péché originel sans être accompagné de péché mortel. C'est donc la conclusion de saint Thomas d'Aquin. D'accord ? Dernier paragraphe, donc de la page 65 sur le polycopié. Dernier paragraphe, juste au-dessus du titre sur les lois. La première chose qui doit se présenter à la réflexion de l'homme, c'est de délibérer sur lui-même. Si réellement il s'est ordonné à la fin voulue, il obtiendra par la grâce la rémission du péché originel. Tandis que s'il ne s'oriente pas vers la bonne fin, en tant qu'à cet âge-là il est capable de la discerner, il péchera mortellement, ne faisant pas tout son possible. Car ce qui s'impose en premier à l'homme qui a le discernement, c'est de réfléchir sur lui-même, et tout le reste est ordonné à cela comme à sa fin, laquelle a la primauté dans l'ordre d'intention. Donc c'est la conclusion de saint Thomas, ce qui s'attaque à la fin est toujours mortel, ce qui s'attaque aux moyens pour atteindre la fin est véniel. Donc nous avons terminé maintenant ce grand traité sur les vices et les péchés, donc nous avons terminé donc la prima secondae, questions 71 et 89, la prochaine fois, Dieu aidant, eh bien, nous commençons le traité sur les lois, une chose très belle, surtout en matière d'exégèse, nous verrons ça. En bas de la page 65, sur le polycopié, le traité sur les lois, c'est l'avant-dernier traité de la prima secondae, va comprendre des questions 90 jusqu'à la question 108. Donc nous verrons cela, si Dieu veut, la prochaine fois. On va terminer par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous.